OK, alors ce matin, on est dans la leçon qui touche au haut Moyen-Âge dans le cours de survol d'histoire de l'Église, l'Église de l'Espoir. Et puis, on va commencer par un mot de prière. Mais Père éternel, on veut te rendre grâce, Seigneur, pour ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont, se sont penchés sur ta parole, qui ont étudié tes Écritures, Seigneur, qui ont essayé de discerner les temps, les moments, Seigneur, où ils vivaient pour discerner les faux enseignements qu'il pouvait y avoir aussi et propager ton Évangile. Père, on est reconnaissant de vivre à une époque où ta parole est tellement accessible, avec l'avènement de l'imprimerie, avec la Bible qui est dans notre langue, Seigneur, et maintenant avec Internet et puis avec l'informatique, c'est tellement facile de pouvoir étudier tes Écritures, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour cela et je te prie, Père, de nous aider justement à être des étudiants fidèles, qu'on puisse quotidiennement aller puiser dans ta parole. Enseigne-nous aussi à travers les leçons de l'histoire, à travers l'histoire de l'Église. Enseigne-nous à retenir les leçons, Seigneur, afin de faire avancer ton œuvre ici et avoir davantage de discernement. Je te prie, Seigneur, de me conduire alors qu'on traite un sujet tellement vaste. Garde-moi, Seigneur, de mal refléter ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, pour ceux qui se joindraient à nous ce matin, juste vous mentionner sur le site de l'Église, vous pouvez trouver les premières leçons du cours. Et donc, vous pouvez, on fait un survol vraiment de toute l'histoire de l'Église, à partir de la fin du livre des Actes jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, c'est très, très, très sommaire. Je l'ai mentionné à quelques reprises dans le cours. Moi, je veux vous encourager à lire le précis d'histoire de l'Église de Jules-Marcel Nicole. Et si vous prenez le temps de lire ce bouquin-là, ça va vous donner beaucoup plus d'informations. Il y a beaucoup de citations dedans, de textes, de documents originaux, de sources primaires avec des lettres, des extraits de lettres. C'est non seulement instructif, mais c'est édifiant aussi. Et c'est de loin beaucoup plus complet que ce qu'on fait ici à l'intérieur du cours. Moi, je souhaite vous donner une espèce de vue générale de l'histoire de l'Église à travers le cours et vous donner un peu le... D'une part, grandir dans notre respect pour ceux qui nous précèdent, dans la belle histoire de cette Église-là, et vous donner le goût d'aller un petit peu plus loin et de fouiller. Alors, ce matin, on va survoler la période de 950 à 1500. Vous voyez? Alors, on fait 550 ans d'histoire ce matin. Ça va très, très vite. Et puis, la semaine prochaine, on va revenir un petit peu en arrière pour regarder davantage la période de la Réforme, commencer cette période-là la semaine prochaine. On est toujours dans le Moyen Âge. Quelqu'un qui veut nous rappeler comment on appelle le Moyen Âge en anglais? The Dark Ages, d'accord? Alors, c'est plus le mot est plus significatif en anglais. Donc, c'est une période où la connaissance était beaucoup moins diffusée. D'abord, au niveau de l'Occident, au niveau de l'Empire romain était relativement éclaté. Il y a des périodes de force, il y a des périodes de faiblesse, mais ça a un impact sur la diffusion de l'information, juste simplement véhiculer les lettres, tout ça. Le royaume n'est pas consolidé, les routes ne sont pas sécuritaires. En fait, l'évolution des connaissances va moins lentement dans cette période-là que dans la période du début de l'Empire romain ou autour, admettons, de la venue de Jésus-Christ, où l'Empire était très stable, les routes étaient sécuritaires, l'information circulait, tout ça. C'est beaucoup moins stable dans toute la période du Moyen Âge. Lorsqu'on arrive dans cette époque-là, bien, on va voir ensemble Moi, je vous dirais, toute la période du Moyen Âge, c'est pas une période particulièrement glorieuse pour l'Église. L'Évangile est souvent pas clair. C'est ce qui va conduire à la Réforme. On va voir ça la semaine prochaine. Mais il y a vraiment beaucoup de guerres de pouvoir. Le Moyen Âge, c'est la période où la papauté est allée vraiment au summum de sa puissance, avec ce que ça impliquait comme corruption, comme guerre de pouvoir. Et donc, c'est dans cette période-là du Haut Moyen Âge qu'on voit les croisades. Quelqu'un qui peut me dire c'est quoi les croisades? Avec les croisés. Vous savez c'est quoi? Des chrétiens vont à Jérusalem pour reprendre Jérusalem aux barbares et aux hérétiques musulmans. D'accord? C'est la perspective. Et donc, ils s'en vont là avec le fil de l'épée. C'est des militaires. La première croisade, 25 000 hommes vont quitter la France pour pouvoir se rendre à Jérusalem et reprendre Jérusalem, pour vous donner une idée. Mais on va voir ça ensemble ce matin. Et donc, c'est une période des croisades, c'est la période aussi des débuts de l'Inquisition. Quelqu'un qui sait c'est quoi l'Inquisition? C'est pas tellement mieux. Danny, tu sais c'est quoi l'Inquisition? Non? OK. Quelqu'un qui peut me dire c'est quoi l'Inquisition? Vous avez vu des films là-dessus? Non? C'est ça. Alors à différents moments, des gouvernements locaux, des archevêchés, pouvaient mandater des hommes de chasser, de dénicher les hérétiques qui étaient cachés parmi la population, de les faire passer par la question. Hein, la question, ça se pose avec des techniques de torture. Alors, certains membres du clergé se sont spécialisés dans cette technique de la question. Et on torturait les gens jusqu'à temps qu'ils avouent ce qu'on voulait qu'ils avouent. Fait que si vous n'étiez pas une sorcière, vous alliez en définitive dire que vous étiez une sorcière. D'accord? On allait travailler assez longtemps pour arriver là et finalement, vous allez être brûlé sur un bûcher. Ça, c'est la période de l'Inquisition. C'est dans cette période-là aussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas jojo. Et lorsque vous entendez parler aujourd'hui par des gens qui vont dire « Oui, mais les religions, tout ce que ça fait, c'est que ça produit des guerres, puis les pires atrocités de l'humanité se sont faites à travers les guerres. » D'une part, c'est pas vrai. Parce que le marxisme a fait des choses absolument abominables, parce que Hitler a fait des choses absolument abominables. C'est pas vrai que c'était fait au nom de la religion, là. C'était un simple prétexte, là. Mais d'autre part, ces histoires-là, les croisades, l'Inquisition, ces choses-là nous suivent encore, d'accord? Dans la pensée populaire des gens, le christianisme, c'est ça aussi. Lorsque nous, on lit ça, on se dit, mais voyons donc, ça se peut pas, c'est pas le christianisme. Mais, je veux dire, la réalité, c'est que c'est l'Église catholique. C'est ça, c'est la vérité. Et l'Église catholique, c'est encore dans la majorité, dans la pensée de la majorité des gens sur la terre, c'est encore l'image de ce que c'est le christianisme. D'accord? Alors, vous ne pouvez pas détacher l'un de l'autre, puisque c'est l'Église catholique qui était derrière les croisades, derrière l'Inquisition, tout ça. Donc, c'est dans cette période-là qu'on voit ces deux éléments-là, et c'est dans cette période-là qu'on voit apparaître aussi une influence intéressante de la part d'un certain nombre de moines. C'est là qu'on va voir les moines franciscains, cisterciens, ces mouvements-là naître. Et il va y avoir certaines choses intéressantes qui vont sortir de là à travers François d'Assise, Thomas d'Aquin, qui vont préparer aussi la réforme. D'accord? Ça, c'est la période qu'on couvre ensemble ce matin. Si vous allez aujourd'hui en Europe, il y en a qui sont allés en Europe, moi, j'ai pas eu le privilège encore, mais qui ont vu des églises en Europe. Et lorsque vous voyez ces églises-là, vous regardez en quelle année elles ont été construites. Un grand nombre d'entre elles ont été construites pendant la période du Moyen-Âge. Et ça nous donne une idée de l'importance, d'accord? Quand vous voyez ces vieilles églises qui remontent à cette époque-là et vous voyez la majesté de ces bâtiments-là, vous avez un moyen très concret de vous projeter dans le passé pour mesurer l'importance du christianisme ou de la foi dans cette époque-là. D'accord? Vous allez dans ces lieux-là et vous voyez bien que ce qu'il y a de plus beau que le château de la place, c'est la cathédrale de la place. Et donc, ça nous donne une mesure. Et lorsqu'on entre à l'intérieur puis on voit toute l'énergie qui est investie au niveau artistique, juste dans ce qui nous reste, là, qu'on peut voir avec nos yeux qui remontent à cette époque-là, on voit à quel point l'Église a eu un impact important dans cette période-là, au niveau de l'architecture, au niveau des arts, mais aussi sa présence dans la société. Lorsque tu réussis à conduire une ville à bâtir une cathédrale semblable, je veux dire, écoutez, on est à cette époque-là, là, c'est pas des magnats de la finance qui se bâtissaient des tours, là. On est à une époque où c'est vraiment la communauté qui va faire des choses parce que le peuple suit une direction. Et une des choses qui est frappante, si vous allez visiter l'Europe actuellement, c'est que lorsqu'on regarde des bâtiments qui demeurent de cette époque-là, bien, vous allez pouvoir voir simplement avec les édifices qui datent de l'époque, la tension qu'il y avait, qu'il devait y avoir, entre le pouvoir politique, civil, qui bâtissait son château, et le pouvoir politique religieux qui bâtissait sa cathédrale. D'accord? Et c'est une des bonnes manières de résumer cette période-là du Haut Moyen-Âge. Prendre conscience qu'à cette époque-là, il y avait deux pouvoirs qui étaient en lutte l'une avec l'autre pour prendre le contrôle de la destinée de l'Empire, de la destinée des territoires, prendre le contrôle de la population. Je sais que dans notre esprit, là, c'est étrange comme idée de dire on est en train de parler d'une église qui veut faire ça. Mais si vous avez lu l'histoire, vous connaissez un peu l'histoire, c'était ça la réalité. Alors, en regardant ces cathédrales, en regardant ces édifices, ces églises, et puis en regardant les châteaux, on voit très bien cette compétition, cette tension qu'il y avait. D'accord? Et un des raisonnements, pour illustrer l'époque, un des raisonnements des dirigeants de l'Église pour investir tellement dans des cathédrales extraordinaires, c'est qu'ils se disaient, si les rois de la terre, si les princes de ce monde méritent d'avoir un beau château, le Christ, lui, qu'est-ce qu'il mérite? Un plus beau château encore. C'était les cathédrales. D'accord? Et ça, c'était leur raisonnement. Derrière ça, évidemment, il y a la poursuite du pouvoir, parce que c'est un édifice qui est encore aujourd'hui. Hein? Moi, je serais curieux de savoir, là, si on faisait un sondage secret ici, là. Je pense aux jeunes générations, ceux qui n'ont pas été comme l'Église catholique, les icônes, tout le kit. Ceux qui ne sont pas sortis de là, vous n'avez pas connu ça. Il y a encore des gens, puis dans la population générale, des gens qui ne sont pas croyants, qui rentrent dans une cathédrale, puis qui disent, je rentre là, puis je sens la présence de Dieu. Rien à voir, là, c'est un impact d'un édifice, tu sais, c'est majestueux. Moi, je sens ça quand j'arrive devant le Mont-Saint-Hilaire. Mais vous comprenez, c'est comme être dans un canot sur un lac extraordinaire par un beau matin d'été. Là. Tu sais, c'est Dieu est ici, ça se peut pas. Mais voyez-vous, c'est ce qui était poursuivi, c'était d'avoir justement cet ascendant sur les gens. Les gens pouvaient rentrer là, être en sécurité, aller se recueillir, trouver le silence et sentir la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'elle était là, plein d'abominations avec les cultes aux idoles. Mais ils sentaient la présence de Dieu en étant là. D'accord? Et donc, c'est ce qui était poursuivi à travers la construction de ces monuments-là absolument extraordinaires. Donc, le Haut Moyen-Âge, on peut le résumer par une période de grand conflit entre la papauté et puis ceux qui réussissaient à certains moments à diriger l'Empire. Et donc, c'est une période où les papes vont démettre des rois et où des rois vont démettre des papes. D'accord? C'est une période où des papes vont refuser la communion à des rois et à toute leur nation pour pouvoir les soumettre. Et une période où des rois vont déménager des papes à Avignon et puis nommer d'autres papes, puis un autre, puis à un moment donné, il y en avait trois en même temps. D'accord? C'est le Haut Moyen Âge. On était dû pour une réforme à la fin, on s'entend? Avec la mort de Charlemagne, la stabilité du royaume dans le 9e, le 10e siècle, on parle de 950, on arrive au 10e siècle, la stabilité du royaume franc, qui est l'Empire romain, mais c'est surtout en France, la stabilité va tomber, on commence à subir des attaques par les Vikings au nord, par les musulmans, on l'a mentionné, au sud, aussi par les Hongrois qui arrivent de l'est. Et donc, il va y avoir beaucoup de pression qui va être mise sur l'Empire pendant cette période-là et beaucoup d'instabilité qui vont venir avec ça. Et on va voir se multiplier de petits royaumes. La période féodale qu'on connaît lorsqu'on étudiait notre histoire de l'Église, au secondaire, puis on parlait toute la période des seigneurs, la période féodale, nous vient de là. Et donc, il n'y a pas nécessairement... À plusieurs moments, il n'y a pas de pouvoir véritablement central, d'accord? Les gens étaient davantage protégés par le seigneur local, croyaient davantage dans la sécurité procurée par le seigneur local que dans la sécurité procurée par l'empereur. L'empereur était loin, il était loin de nous, il ne pouvait pas nous protéger, il y avait des invasions qui arrivaient de différents côtés, l'empire n'était pas consolidé, et donc il va y avoir des guerres de petits seigneurs un peu partout. Et ça va avoir un impact sur le christianisme aussi dans cette époque-là. En même temps, la semaine dernière, on avait parlé des moines qui avaient quand même des visions missionnaires, qui voulaient annoncer le Christ un peu partout. Et on a parlé des moines qui ont poussé dans le nord de la France, qui sont allés en Angleterre, tout ça. Dans la période du Moyen-Âge, ils vont partir comme missionnaires, un grand nombre vont partir comme missionnaires et ils vont aller en Scandinavie, ça veut dire Danemark, Norvège, Suède, des régions qui ont été entièrement christianisées, si on peut dire. D'accord? Je fais toujours une nuance, je pense qu'il y avait probablement des conversions dans tout ça, mais en même temps, c'était vraiment une religion, c'était un système qu'on apportait. Je crois qu'au début, lorsqu'on arrivait avec ce message-là du Christ, il y avait une certaine pureté qui pouvait être là parce que entendre pour la première fois parler de l'amour de Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ, ça reste toujours absolument extraordinaire. Et donc, il y avait quelque chose d'unique qui est incomparable avec tout leur culte qu'ils pouvaient avoir, mais en même temps, le système qui s'installait après était vraiment un système religieux, c'était une religion très, très organisée avec plusieurs fausses doctrines. Donc, on parle du Danemark, la Norvège, la Suède, on parle de l'Islande, de la Russie, de la Hongrie. Même certaines tribus en Mésopotamie ont été atteintes par les missionnaires chrétiens à cette époque-là. Lorsque les différents petits seigneurs avec leur système féodal ont commencé à prendre du pouvoir, une des manières un outil qu'ils se sont donné pour pouvoir avoir davantage d'influence sur le peuple, ça a été toute la question des investitures, d'accord? Alors, ce qu'ils ont commencé, normalement, c'est l'Église qui devait reconnaître qui est évêque, devait nommer qui allait être prêtre dans tel diocèse, dans telle paroisse, tout ça. Et donc, ça venait de l'Église, ces nominations-là. Maintenant, ces seigneurs-là ont voulu prendre de l'ascendant sur la population et ce qu'ils ont commencé à faire, c'est donner des terres à des individus pour pouvoir les nommer eux-mêmes prêtres et donc avoir un ascendant, une influence sur eux, un contrôle sur eux en les séduisant par la richesse. Et donc, un seigneur dans une région donnée, si j'avais été le seigneur de la Montérégie, je ne sais pas, j'aurais décidé de donner la moitié de la ville de Saint-Hubert à quelqu'un pour bâtir un évêché. Ben, ça se peut qu'il accepte, tu sais. Samuel, moitié de Saint-Hubert, un évêché, tu vas être nommé évêque de la Montérégie. Et donc, ils ont carrément passé à côté de l'autorité de l'Église. Ils ont commencé eux-mêmes à investir, à nommer. Et, certaines personnes qui étaient attirées par le pouvoir acceptaient ça et ça faisait partie éventuellement de l'Église. Et l'Église n'a pas réussi à arrêter ça complètement, mais ça a contribué à la corruption qui est en train d'entrer dans l'Église. Lorsque je vous avais mentionné un peu plus tôt, il y a peut-être deux leçons, que assez tôt, même avec la conversion, soi-disant conversion de Constantin, on a commencé à acheter des positions comme évêque. D'accord? C'est un petit peu le même raisonnement. Et donc, si tu peux être nommé évêque, à défaut d'être gouverneur, ça se peut que tu aies pas mal d'influence puis que tu aies pas mal de pouvoir. Donc, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, la clarté de la séparation entre l'État et l'Église, ça ne va devenir clair qu'après la Réforme. Même pendant la Réforme, c'est pas tout clair. Et le fait que cette idée que l'État et l'Église doivent être séparés jusqu'au retour de Christ, le fait que ça, c'était pas clair, ça occasionnait ces guerres de pouvoir-là, ces luttes-là. Il va éventuellement y avoir des réformes qui vont commencer, par exemple, à travers les moines, qui voyaient cette corruption-là dans l'Église et qui décidaient de se retirer, de s'isoler de tout contrôle politique, de toute influence politique, en se repliant sur eux-mêmes, qui n'est pas la meilleure décision, on s'entend, mais il y avait cette volonté-là de sortir du politique pour pouvoir aller me consacrer à servir Dieu. Donc, il y avait des efforts de réforme, mais tout ça va simplement venir à travers la réforme, puis après la grande réforme, qu'on va voir dans les prochaines semaines. Alors, au 10e siècle, comme je le mentionnais, on commence à entrer dans le grand débat « Qui nomme les papes? » Et certains rois vont se battre pour pouvoir nommer eux-mêmes des papes. Et comme cela n'était pas clair à l'intérieur de l'Église, bien, pendant un certain temps, il y a des rois qui vont nommer des papes jusqu'à temps qu'il y ait une réforme et qu'un pape mette son pied à terre et dise « Non, ce sont un concile d'évêques, un synode qui va éventuellement, à la mort du pape, nommer le prochain pape. » Je ne suis pas en train de dire que ça règle tout. Mais disons qu'on est en train quand même d'aller tranquillement vers une certaine séparation de l'État et de l'Église. Dans leur but à eux, c'était probablement de garder un contrôle davantage. Ici, on avait évidemment Charlemagne. On est rendu un petit peu plus loin dans notre histoire. On approche de Léon IX, la prochaine acétate, de Grégoire VII, qui a été un des papes les plus puissants et les plus influents de tous les temps. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, là, pendant cette période-là, au 10e siècle, il va y avoir des nominations de pape et d'antipape. Et donc, l'Église va nommer un pape, un roi va nommer un autre pape qui est censé s'opposer à celui-là, qui est censé être le vrai pape. Et puis, on va, à un certain moment donné, comme je le mentionnais, se retrouver même avec trois papes en même temps. Euh, En 985, cette controverse-là, à savoir qui devait nommer les papes, est arrivée à un point culminant lorsque Boniface VII, qui était pape, est mort soudainement, probablement empoisonné. Et puis, il a été traîné par les soldats nus. Son corps a été traîné complètement nu dans la ville. Puis, il a été abandonné là, au milieu de la ville, et afin que tout le monde puisse comme mépriser, ne pas reconnaître son autorité. Alors, au milieu de ce conflit-là, Henri III, qui était l'empereur à ce moment-là du Saint-Empire romain, a décidé qu'il fallait absolument mettre un terme à ça. Et puis, il va convoquer un synode en Allemagne à ce moment-là, en 1049. Il va décider de mettre fin à ça, il va convoquer un synode et puis ils vont commencer à nommer des papes. Mais les conflits ne s'arrêtent pas là. Ça va mener à la nomination de 3 papes rivaux éventuellement. Et puis finalement, on va mettre fin à ça avec la nomination de Léon IX, qui a été nommé pape et qui a siégé sur le trône papal. Maintenant, OK, c'est ça l'histoire. Excusez-moi, là, j'oubliais des petits détails intéressants de l'histoire. Alors, Henri III décide qu'il met fin à la nomination de pape puis d'antipape puis tout ça, puis il décide qu'il convoque un synode, qu'il va présider le synode, et puis il décide d'élire à ce moment-là, j'ai dit son nom, Léon IX, merci, ce monsieur-là. Et puis il le nomme pape. Léon IX, lui, dit non, c'est pas le roi qui doit nommer le pape. Très bien, je vais être le pape, mais voici ce qu'on va faire. Il enlève tous ses attirails qui lui avaient été donnés. Il renonce à ça. Il s'habille en quêteur. Et puis, il s'en va quêter dans la ville jusqu'à temps que la population et l'Église le nomment eux-mêmes pape. Et donc, par ça, il voulait refuser le pouvoir civil sur la nomination des papes. D'accord? Et à partir de ce moment-là, c'est l'Église qui a repris le contrôle de la nomination des papes. Donc, le monsieur était quand même convaincu parce qu'il prenait une chance. On arrive à Hildebrand. Il faut juste que je révise mes petites notes ici. Alors, en 1073, lorsque Léon IX décède, Hildebrand, qui était un archidiacre à ce moment-là dans l'Église de Rome, va être nommé pape. Très, très, très rapidement, les cardinaux vont le reconnaître comme pape. Il était déjà très influent et il va prendre le titre de Grégoire VII. Grégoire VII a été un des papes les plus influents et les plus puissants de l'histoire de la papauté. Il va y avoir des choses intéressantes qu'il va faire, mais évidemment, avec ce système-là, il va toujours chercher plus de pouvoir aussi pour la papauté. Alors, il croyait que le monde avait été organisé autour de 2 grandes puissances, les empereurs et les papes, qui devaient coopérer ensemble pour gouverner la terre. Et donc, vous voyez, on n'est pas du tout à la même place où, dans notre esprit à nous, l'Église n'a pas à gouverner rien d'autre que notre foi, puis grandir ensemble, puis annoncer l'Évangile. Ces choses-là sont... C'est super clair pour nous. On dit, ben, j'ai pas d'affaire à commencer à nommer quoi que ce soit, puis les députés n'ont pas à me consulter pour prendre des décisions. Mais pourtant, ceux qui connaissaient l'histoire récente, hein, pas si loin que ça, 50 ans au Québec, l'histoire du Québec, il y avait quand même une certaine connivence assez claire entre l'Église et puis l'État, non? Et l'époque où le curé disait « l'enfer est rouge, le ciel est bleu, votez bleu », n'est pas si loin que ça, d'accord? 50-60 ans au Québec. Et donc, pour nous, c'est étrange d'entendre ça, mais ces choses-là ne sont pas si loin. Et si vous alliez aujourd'hui dans certains pays d'Afrique, certains endroits en Asie, les pasteurs se promènent en limousine dans certains de ces endroits-là. Et un pasteur, c'est nécessaire qu'un pasteur soit présent lorsqu'un président va faire une allocution et le pasteur va venir prononcer une bénédiction sur le président. Ça peut être bien. Quand est-ce que ça devient douteux? Comprenez, quand est-ce que, bon, je pense que la limousine, on peut oublier ça, là, mais je veux dire, prier pour la nomination d'un président, ça peut être bien, mais quand est-ce que ça devient, quand est-ce qu'on commence à rentrer dans des jeux de pouvoir, quand est-ce qu'on commence à glisser de ce côté-là, d'accord? Alors, dans la tête de Grégoire VII, le monde devait être gouverné par 2 pouvoirs, l'empereur et le pape, et c'est eux qui devaient collaborer ensemble pour gouverner littéralement la terre. Grégoire VII a, par exemple, utilisé le terme pour la papauté du souverain universel. Ça, c'était sa compréhension du pape. C'était le souverain universel. Seul le pape pouvait nommer les évêques et puis les destituer. Que personne n'avait le droit aussi, il a décrété que personne n'avait le droit de renverser les décisions papales. Et donc, seul lui pouvait renverser ses propres décisions. Que l'Église romaine n'avait jamais erré d'aucune manière de toute éternité. Alors ça, c'est des déclarations de Grégoire VII. Ils se sont repentis de ça depuis, parce qu'ils ont dû reconnaître pas mal plusieurs abominations. Pour s'assurer le pouvoir de la papauté, Grégoire VII a exigé que tous les évêques de leur vivant fassent un pèlerinage à Rome. Et donc, c'est une manière... On n'est pas à une époque de communication rapide, on n'est pas à une époque de circulation rapide, et en les obligeant, en ordonnant que chaque évêque partout dans l'Empire fasse un pèlerinage à Rome, il les obligeait à venir vers lui, à reconnaître son autorité, à reconnaître qu'il avait une autorité sur leur ministère, sur leur paroisse, sur leur diocèse, tout ça. Alors évidemment, cette puissance-là qu'il a réussi à mettre en place a mis en colère plusieurs princes, et... le nouvel empereur du Saint-Empire romain, Henri IV lui-même, était en colère avec ça. Alors, ce sera pas long. OK, pour vous donner une idée un petit peu des tensions, c'est Grégoire VII qui a... réussi à mettre en place l'idée que c'était vraiment l'Église qui devait nommer les évêques et c'était le pape lui-même qui devait le faire. Et à ce moment-là, Henri IV, l'empereur du Saint-Empire romain, sentait qu'il était en train de perdre le pouvoir et il a décidé d'aller nommer un pape en Allemagne. Et à ce moment-là, la manière que Hildebrand, qui est Grégoire VII, a répondu, il a dit que ce pape n'était pas un pape, mais que c'était même un faux moine. Et finalement, le Henri IV en est venu à dire, « Moi, Henri, roi par la grâce de Dieu, et tous mes évêques, nous disons, venez, venez, et soyez damnés, pape Grégoire VII. » C'était le genre de petite gaga qui se faisait entre ces gens-là, et la population était prise au milieu de ça. Grégoire, qui était capable de faire des bonnes batailles, a éventuellement excommunié Henri IV, lui interdisant, lui refusant de faire partie du royaume de Christ et d'être le roi du royaume de Christ. Ce n'était pas au roi de juger les papes, mais au pape de juger les rois. Et c'était la première fois qu'un pape osait à ce moment-là, comme pas destituer, mais excommunier un roi, littéralement. C'était la première fois que ça se produisait. Je veux juste voir si c'est lui qui est allé supplier le pape pieds nus dans la neige. Oui, alors lorsque Grégoire VII a excommunié, d'accord, ça veut dire qu'il est damné, là. Il est sorti de l'Église, il est damné. Et ce roi-là a été tellement pris de panique à ce moment-là, parce que là, c'était plus une question de pouvoir politique, mais c'était une question de son éternité, qu'il s'est rendu auprès du roi qui est allé s'enfermer dans une forteresse en hiver, auprès du pape, je m'excuse, qui est allé s'enfermer dans une forteresse en hiver, il s'est rendu auprès de lui, il s'est déchaussé, il est resté pieds nus dans la neige et il a supplié le pape de vouloir le réintégrer dans l'Église jusqu'à ce que le pape concède et accepte de le réintégrer dans l'Église. C'était aussi des jeux de pouvoir parce qu'évidemment le roi à ce moment-là perdait tout son pouvoir sur l'Empire parce que l'Église voulait pas être la population ne voulait pas être excommuniée avec le roi. Et donc, une fois que le roi va reprendre son pouvoir, éventuellement, il va réussir à envoyer en exil le pape Grégoire VII qui va terminer sa vie en exil. On n'est pas dans des moments très, 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 très pieux, là. On s'entend. Laissez-moi vous parler des croisades, parce que le temps avance, puis écoutez, c'est quand même palpitant, les croisades. C'est tellement des beaux moments de l'histoire de l'Église. Grégoire VII est celui qui a mis en place les premières croisades, qui voulait consolider l'Empire. Et une des manières de le faire, c'était de rassembler tous les chrétiens autour d'une cause commune. Vous avez déjà vu ça? Comment distraire les gens d'un ennemi local? Il s'agit juste à trouver un gros méchant là-bas, qui est peut-être en Orient, et puis on va aller chasser le diable en Orient, tous ensemble. C'est une bonne manière de distraire tout le monde, puis d'essayer d'unifier tout le monde ensemble. Alors, ça a été une des manœuvres qu'ils ont faites à ce moment-là. Et on avait parlé plus tôt qu'il y a la séparation entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique qui avait déjà eu lieu. À un certain moment donné, l'Église orthodoxe était menacée par les musulmans et ils ont fait appel à Rome pour venir à leur secours. Ils ont vu une opportunité à ce moment-là et ils ont appelé une première guerre sainte pour aller libérer Jérusalem des hérétiques musulmans qui avaient pris Jérusalem et aller libérer cette terre sainte qu'il nous fallait les libérer. Et donc, c'est lui qui va, c'est-à-dire, lui va mettre ça en place et son successeur, Urbain II, va demander la première croisade. Et voici ce qu'il a dit à la fin de son sermon lorsqu'il a lancé l'idée de cette croisade. Il a dit « Entreprenez ce voyage pour la rémission de vos péchés. » Alors, une chose qu'il faut comprendre avec les croisades, c'est qu'évidemment, lorsque les gens partaient, les probabilités qu'ils reviennent étaient assez faibles. Et donc, le pape a conçu cette idée de l'indulgence plénière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi l'indulgence plénière? Quelqu'un qui peut me dire c'est quoi une indulgence? Pardon? C'est une faveur? Dans le cadre de l'Église catholique, une indulgence, ça s'achète. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. C'est des choses qui peuvent t'exempter d'un certain temps dans le purgatoire, des choses comme ça, tout ça. Alors, une indulgence plénière, c'est une indulgence absolue. Alors, si moi, pape Yannick Etier, je donne une indulgence plénière à David à la condition qu'il parte en croisade pour aller libérer Jérusalem, je promets à David que s'il meurt en cours de route, son âme est sauvée, quoi qu'il ait fait, même s'il n'a pas reçu l'absolution avant. Fait que là, vous ramassez 25 000 hommes, puis vous leur dites, « Les boys, vous avez toute une indulgence plénière si vous mourrez en route. » Non. Ils payaient de leur vie. Fait que vous avez 25 000 hommes armés qui partent, qui doivent se rendre à Jérusalem. D'accord? Et ils ont une indulgence plénière. Vous savez ce que ça fait lorsque ça passe en route? Ces armées-là n'apportaient pas le lunch avec eux. Hein? D'accord? Oui. C'est vrai. Oui, vous avez compris la comparaison là, avec l'idée dans le Coran que si tu meurs dans une cause sainte ou tu meurs pour même tuer des impies, ben tu as la promesse d'avoir plusieurs femmes au ciel, d'être dans la présence d'Allah, tout ça. Donc, il n'y a pas une grande différence. C'est vrai qu'il n'y a pas une grande différence. Et ça produit des atrocités, d'accord? Parce que ces hommes-là s'en allaient pas tous là avec des idées pieuses. Plusieurs d'entre eux s'en allaient là pour la gloire, avec le rêve de revenir, par exemple. Dans cette période-là, il va y avoir tout le trafic des artifacts, là, je sais plus, des reliques. Le trafic des reliques va être très, très fort. Si je peux me rendre à Jérusalem, peut-être que je vais retrouver la croix du Christ, peut-être que je vais pouvoir avoir un morceau de la croix, la ramener dans l'église de mon royaume et dans ma cathédrale, et les gens vont venir prier pour pouvoir toucher à un morceau de la croix du Christ. Et donc, dans cette période-là, il y a un trafic complètement abominable. On a tout retrouvé. Vous dire, on aurait pu reconstituer quatre Christ et quatre croix juste avec tous les morceaux qu'on a retrouvés. Le sang, l'ADN, tout le kit. C'est fou, il y avait des résidus de sang, n'importe quoi. Oui. Oui, c'est ça. Ça faisait partie de la quête de retrouver ça aussi. Fait que. Alors, les croisades, c'est. Pour nous, aujourd'hui, on regarde ça et on se dit, mais c'est une farce monumentale. Sauf que lorsque 25 000 hommes passent sur ton territoire avec un épée, c'est pas drôle. Il n'y a pas de joke là. Puis en plus de ça, ils font ça au nom du Christ. D'accord? Fait que c'est. Et donc, lorsque les gens en Europe particulièrement nous disent Ouais, on a déjà donné nous autres à la religion, on a vu les morts, les musulmans arriver, nous massacrer, on a vu les croisés passer nous massacrer, parce que ces gens-là s'en allaient à Jérusalem. La cause à sauver, c'était Jérusalem. C'était pas de faire des petits chrétiens tout le long du chemin. Il fallait se nourrir, il fallait manger, puis étant donné qu'on a une indulgence plénière, il fallait aussi avoir du plaisir. D'accord? Fait que on fait la route, puis on saccage en route. Première croisade en 1096 avec le pape Urbain II. Et donc, comme je vous dis, 25 000 hommes approximativement vont répondre à l'appel et vont se lancer dans cette croisade-là. Il y a des milliers de morts en cours de route. Les armées ne sont pas organisées comme maintenant. Dans l'armée aussi, il y a des milliers de morts. Mais les gens s'en vont là et nombre de seigneurs partaient. D'accord? C'était pas là. C'était un honneur. D'abord, tu partais équipé. Fait que partir avec un cheval, avec un écuyer qui avait son propre cheval, avec le matériel pour partir, avec l'argent que le voyage allait coûter, avec les armes, avec tout ça, c'était des seigneurs qui partaient à la guerre, d'accord? C'était pas les gens du peuple, c'était pas des paysans. Il y avait une armée de pied, de terre aussi, mais il y avait énormément de seigneurs qui partaient là et qui espéraient revenir, justement, comme je vous dis, avec la gloire d'avoir libéré Jérusalem des impies, puis peut-être ramener des richesses de là-bas aussi. En 1099, ils ont réussi à reprendre Jérusalem. Et là, on va entrer dans une séquence de prises, de chutes, où ils vont prendre Jérusalem des fois pour 10 ans, des fois pour 5 ans, et puis ça va être repris par les musulmans. Entre autres, c'est dans cette période-là qu'on trouve Saladin, si vous avez déjà entendu parler de Saladin, qui a été un grand chef chez les musulmans, qui a proclamé un djihad en 1187 pour aller renverser les chrétiens qui avaient pris Jérusalem, et il va réussir cette attaque-là avec ce djihad-là. Donc, les djihads, les croisades, ça se ressemble, c'est assez pathétique. Pour vous donner une citation de l'époque qu'on a, je vais le faire en traduction libre, là. Certains de nos hommes, alors c'est quelqu'un qui était sur place qui a décrit la prise de Jérusalem. Certains de nos hommes coupaient les têtes de nos ennemis. D'autres les tiraient de leurs flèches. Ainsi, ils tombaient des tours. D'autres les torturaient en les jetant dans les flammes. Il était nécessaire de lever les pieds afin de ne pas s'enfarger dans les corps et dans les dépouilles des chevaux. Mais tout ceci n'était rien en comparaison de ce qui s'est passé dans le temple de Salomon où les hommes avançaient dans le sang jusqu'à hauteur des genoux. Définitivement, ceci était un moment splendide du jugement divin qui a pris place et qui a rempli de sang, du sang des infidèles, ce lieu qui avait été longtemps souillé par leur blasphème. Alors, c'était la vision. C'est la vision de l'époque. Nous, on fait ça avec des Bibles, puis plus gentiment. D'accord? Je vais vous épargner l'ensemble des croisades. Si vous lisez un petit peu sur les croisades, il y a le massacre de Constantinople dont vous allez entendre parler. Alors, une des croisades, des marchands vénitiens ont réussi à convaincre les croisés qui étaient sur tous leurs navires de faire escale à Constantinople pour aller reprendre Constantinople. Et ils avaient dit aux croisés, vous irez prendre toutes les richesses que vous pouvez à Constantinople, puis après ça, on ira continuer notre cause, d'accord? Cette croisade-là, si je ne me trompe pas, c'est jamais terminé, parce qu'ils se sont rendus à Constantinople, ils ont saccagé la ville pendant 3 jours, puis ils sont rentrés chez eux, d'accord? Et si vous lisez sur le massacre de Constantinople, je vous le dis, c'est absolument abominable. Alors, c'est pour ça que je vous dis, quand vous parlez avec des gens, puis ils vous disent, la religion... Il y a une histoire, puis tout ça fait partie encore de la pensée populaire puis de la vision des religions. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment annoncer Christ, puis pas annoncer « je suis de l'Église, de ci, de ça ». Je m'en viens vous annoncer Jésus-Christ. L'Inquisition, oui. On aurait été vraiment, vraiment confus, définitivement. Mais soyez pas découragés, on arrive bientôt à la période de la Réforme. Et cette période glorieuse-là où les chrétiens, aujourd'hui, envoient des milliers, des milliers, des milliers de missionnaires de plus que tout ce qui a pu se faire à cette époque-là. Il y a bien plus que 25 000 missionnaires chrétiens sur la terre actuellement en train d'évangéliser la terre. Et ils ne le font pas avec un épée, ils le font au nom de Christ, avec l'amour. Puis avec humilité. Fait que, on va arriver à une autre époque, mais c'est vraiment une grande période de noirceur. Mais c'est vrai que ça aurait été vraiment troublant de vivre à cette époque-là avec notre compréhension des Écritures. Alors, toute la question des monastères et des moines de cette époque-là, on avait déjà parlé de Benoît de Cluny. Ce mouvement-là a éventuellement est devenu assez riche, et donc il y a eu de la corruption qui est rentrée dans ça. Comme je vous dis, on donnait des terres pour avoir la collaboration des membres du clergé. Ensuite est né le mouvement des frères cisterciens, qui existe encore aujourd'hui. Hein? Les frères cisterciens, ça existe encore aujourd'hui? Je ne suis pas sûr que oui. Alors ça a été fondé en 1098. Et c'était vraiment une réaction aux moines de Cluny. Ils avaient fait vœu davantage de pauvreté, de faire des travaux manuels, de s'adonner à la prière privée plutôt que de la prière ensemble. Des moines cisterciens, on va se rappeler Bernard de Clairvaux. D'accord? Certains d'entre vous, vous connaissez ce nom-là, Bernard de Clairvaux, qui a écrit beaucoup, qui a été pas mal influent aussi. Bernard de Clairvaux disait, nous devons apprendre à aimer Dieu pour ce qu'il est seulement, pour ce qu'il est lui-même. Et donc, son désir à lui, c'était simplement de s'approcher de Dieu, non pour ce que Dieu nous donne, mais pour ce qu'il est comme personne. Et donc, des fois, vous allez trouver même cité dans des écrits évangéliques, d'accord? En 1209, François d'Assise va fonder le mouvement franciscain, les moines franciscains. François d'Assise, vous connaissez ça un peu, vous avez déjà entendu? Saint François d'Assise, oui? OK. François d'Assise va fonder ce mouvement-là et lui-même va faire vœu de pauvreté. Et lorsque son mouvement va devenir trop puissant, il va quitter la tête du mouvement puis il va aller vivre reclus jusqu'à la fin de ses jours pour ne pas être corrompu par le pouvoir qu'il y avait là. Donc, il y avait vraiment des gens quand même qui faisaient des choix très pieux, très sérieux, très sincères aussi. C'était pas seulement des massacres. La prise de Constantinople, vous avez vu des images, hein, je pense. OK, on a vu les palais d'Avignon. Je m'excuse, j'ai oublié mes acétates. Le palais d'Avignon, c'est le palais des papes en France, où les papes ont été... les papes décrivaient cette période-là comme la déportation babylonienne. D'accord? C'est lorsque l'empereur avait enfermé le pape dans les palais d'Avignon, avait fait construire des palais pour pouvoir contrôler le pape et qu'il ne soit plus à Rome. Mais on est rendu plus loin dans l'histoire, on est rendu dans la période des moines. OK. Quelques éléments de cette époque-là qui préparaient l'avènement de la Réforme. Puis je vais terminer avec ça. D'abord, les croisades, aussi plates que ça puisse paraître, ont contribué à démontrer que la papauté n'était pas la solution et que ces gens-là étaient des êtres corrompus. D'accord? Alors, à un certain moment donné, progressivement, parmi la population, parmi les intellectuels de l'époque, il y a un constat qui s'est fait et cette espèce de jeu politique-là, et puis des guerres de pouvoir, ça s'imposait et tout le monde en venait à dire « les papes sont juste les gens les plus corrompus, les plus puissants de la terre, ça finit là ». Et donc, ils sont là pour eux-mêmes et pour leur propre gloire. Et ça va contribuer à préparer la réforme. Quand ça va faire partie de la préparation de la réforme qui va venir, on va en parler, au 16e siècle. Les réveils, si je peux dire, qu'il y a eu dans certains des mouvements monastiques ont contribué aussi, parce qu'eux autres avaient une indépendance, et ça donnait comme deux images de la foi. Vous aviez cette image de l'Église officielle qui est en train d'essayer d'avoir tous les pouvoirs et de contrôler tout le monde, et vous aviez ces moines-là qui faisaient vœu de pauvreté, qui servaient la population, qui se donnaient pour la population. Dans plusieurs de ces mouvements monastiques-là, on a vu la corruption rentrer éventuellement, d'accord? Mais au départ, il y avait quelque chose de très pur qui était là dans la démarche. Quand je dis qu'il y avait une corruption qui rentrait éventuellement, mais comme je l'ai mentionné lorsqu'on a commencé à parler des mouvements monastiques, ça devenait un système interne très ordonné qui réussissait à produire beaucoup plus de richesse, de sécurité, de stabilité que ce qu'on avait dans la population. Vous avez 150 hommes qui font vœu de pauvreté, qui travaillent, qui se lèvent à 4 heures le matin, qui se couchent à 8 heures le soir, se relèvent à minuit pour prier, qui servent la population, qui entretiennent le jardin, qui font des travaux, qui vendent des biens, tout ça. Et à un certain moment donné, ben il y a pas mal de richesses dans ce monastère-là. Personne n'en est propriétaire, sinon le monastère, puis il y a quelqu'un qui dirige le monastère. D'accord? Et donc, éventuellement, dans la majorité de ces mouvements-là, on a vu pas mal de corruption s'installer au fil du temps. Mais au départ, on voyait ces mouvements-là naître et on disait, ben ça ressemble plus à ça, l'Église. À cette idée de servir les gens plutôt que de se servir de la religion pour manipuler les gens. Dans cette période-là, il y a un mouvement intellectuel religieux qui est né. C'est toute la discipline de la scolastique. La scolastique voulait que... C'était l'idée qu'on pouvait associer la raison et la foi, et donc qu'il n'y avait pas d'opposition entre les deux. Et au contraire, même... un des premiers penseurs de la scolastique disait « La foi doit éclairer la raison. » Et donc, ils vont dire « Je crois afin de penser. » Je crois afin de savoir. Et donc, Anselme avait cette idée-là qui disait, je m'en vais vers les Écritures, je crois dans l'existence de Dieu. Puisque Dieu existe, l'univers a un sens. Il y a un créateur derrière, il y a un sens à trouver, et donc je peux étudier la nature. La nature doit fonctionner avec ordre, puisqu'il y a un créateur qui a ordonné toutes choses. D'accord? Alors, son raisonnement, c'était, je crois dans l'existence de Dieu, donc je veux connaître et je peux étudier, je peux développer la science. Ça, c'était son raisonnement. Toute chose doit avoir un sens logique, doit être organisée selon un système. Et donc ça, ça va faire la promotion de la recherche et de la science. Oui. C'est ça. Son raisonnement, c'est qu'en regardant la nature, il disait « Derrière ça, il y a quelqu'un. » D'accord? Et c'est un argument que tous les chrétiens ont intégré. Chacun d'entre nous, lorsqu'on s'est questionné sur l'existence de Dieu, on s'est dit « il y a quelqu'un derrière ça. » Puis là, tu regardes l'être humain. Et puis vous avez tout entendu ces arguments-là, d'accord? C'est Anselme qui les a formulés pour la première fois. C'est lui qui a formulé cette défense-là de la foi. Sa démarche à lui, son objectif à lui, c'était de faire la promotion de la science. Et de vouloir étudier comme ça. Alors, il disait, je crois afin de pouvoir comprendre, afin de pouvoir connaître. Alors, il a développé l'argument ontologique. Puis c'est pas un argument qu'on sert beaucoup aujourd'hui, parce que la scolastique a continué à avancer. Après, son argument, c'était, puis Emmanuel Kant a défendu cette idée-là aussi, Dieu doit exister puisque nous ne pouvons pas concevoir quelque chose de plus grand que Dieu. Et donc, par conséquent, Dieu doit exister. Ça, c'était l'argument ontologique d'Anselme. Là, nous autres, on se dit, ouais, mais on peut imaginer d'autres choses. Fait que c'est pas un argument qu'on va admettre aussi facilement aujourd'hui. On va aller plutôt avec le raisonnement de Thomas d'Aquin. On va arriver à Thomas d'Aquin. Un élément vraiment intéressant, par exemple, avec Anselme, puis probablement son ouvrage le plus important, c'est « Pourquoi Dieu est-il devenu un homme? » Et à cet égard-là, la manière qu'Anselme raisonnait, c'est qu'il se disait l'offense que l'être humain a fait à Dieu pour pouvoir calmer le courroux, la colère d'un Dieu saint, ne pouvait être accomplie uniquement par un homme. Il fallait un sacrifice parfait qui était fait par Dieu lui-même. Et ça, c'est son raisonnement. Et donc, il a défendu l'idée que l'incarnation de Dieu, dans le Fils de Dieu, nous aide à comprendre, et c'est un ingrédient important du fait que son sacrifice était suffisant pour le pardon de nos péchés. Et son idée, un simple homme, uniquement homme, n'aurait pu payer la faute pour tous les hommes. Il fallait que Dieu s'incarne homme pour le faire. D'accord? Alors cet ouvrage-là, c'est « Pourquoi Dieu est-il devenu homme? » Dans la scolastique, ensuite, est apparu Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, Anselme, tout ça. Un peu comme les pères de l'Église, je pense que c'était Louise l'autre fois qui avait posé la question, elle avait dit « Ouais, mais quand on regardait les pères de l'Église, il y en avait, chacun d'entre eux croyait certaines affaires bizarres, puis en même temps croyait certaines affaires vraies, puis là on posait la question « Oui, mais où est-ce qu'on les situe par rapport à la foi? » C'est un peu la même chose avec Thomas d'Aquin, avec Anselme. On va lire ces gens-là, certains d'entre eux au niveau de la compréhension de l'Évangile, c'est clair, d'autres non. Alors, on va laisser Dieu juger de leur éternité. Mais en même temps, on les lit parce que c'était des docteurs qui ont étudié les Écritures. Et Anselme va être cité par des évangéliques. Thomas d'Aquin va être cité par des évangéliques. Même si Thomas d'Aquin a mis des choses en place qui, après, allaient conduire à l'idée que l'être humain doit participer à son salut. D'accord? Même si, à faire ça, il y a bien des choses qu'il a écrites qui étaient très justes et très vraies. Fait que soyez pas fermés à lire des choses de Thomas d'Aquin ou d'Anselme simplement parce que vous dites « Oui, mais c'est l'Église catholique, c'est Saint Thomas d'Aquin. » Oui, ils en ont fait un saint après, puis ils ont voué un culte à ces hommes-là. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont écrit n'était pas juste. Au contraire, Thomas d'Aquin va avoir pas mal d'influence sur Jean Calvin, entre autres. Donc, Thomas d'Aquin, juste pour la petite histoire de Thomas d'Aquin, il est né dans une famille très, très riche italienne en 1225 et très tôt, il voulait se consacrer au service de Dieu. Sa famille qui était très, très riche était absolument scandalisée parce qu'il voulait plutôt qu'il bâtisse, qu'il contribue à l'empire familial avec les richesses, tout ça. Alors, ils ont mis tous leurs efforts possibles à le décourager. Ils ont embauché une prostituée pour essayer de le tenter. Ils l'ont kidnappé pour l'empêcher de rentrer dans un monastère. Ils lui ont offert de lui acheter une position d'archevêque à Naples. Il a refusé tout ça et puis il est rentré dans un monastère pour se consacrer au service de Dieu. Ça, c'est pour la petite histoire de Thomas d'Aquin, d'accord? Il s'est rendu à Paris pour poursuivre ses études et puis il a consacré sa vie à enseigner des Écritures. Thomas d'Aquin utilisait la philosophie d'Aristote. Ça, c'est une chose que j'ai oublié de mentionner. Aristote, ironiquement, a été redécouvert par l'Occident à cause des croisades. Lorsque les croisés sont venus en Orient puis au Moyen-Orient, ils ont rencontré les intellectuels musulmans qui étaient en train d'étudier Aristote. Ils ont ramené ces connaissances-là en Occident et Aristote a été redécouvert par l'Occident suite aux croisades. Une petite parenthèse. Donc Thomas d'Aquin était vraiment impressionné, intéressé, a étudié la philosophie d'Aristote et a voulu s'en servir pour défendre les vérités du christianisme. Contrairement à Anselme, Anselme disait « On ne peut pas se fier dans nos sens pour découvrir la vérité, il faut commencer par la foi, puis après ça éclairer nos sens de la foi. » Je vais essayer de mettre ça clair. Nous aujourd'hui, on va dire l'être humain dans son intelligence est... Le propre de la science, c'est l'être humain est capable de raisonner logiquement et s'il réussit à faire suffisamment de démonstrations sur une thèse, sur une hypothèse qu'il émet, bien, il va pouvoir faire la démonstration que ça, c'est vrai, d'accord? Et donc, on a une confiance absolue dans la capacité de l'être humain de comprendre, d'évaluer, de voir les choses. C'est ça, la science aujourd'hui. La science repose sur l'idée que l'être humain est capable de mesurer, de voir, de comprendre, d'analyser et de comprendre parfaitement quelque chose jusqu'à dire une absolue vérité sur quelque chose, d'accord? Toutes les théories scientifiques vont dans ce sens-là, jusqu'à temps qu'on démontre le contraire, mais on est capable donc de comprendre l'univers par nous-mêmes. Anselme disait non, c'est impossible. On n'est pas Dieu, donc on ne peut pas faire ça. Il faut commencer par la foi. La foi va venir éclairer nos recherches, puis là on va pouvoir commencer à comprendre l'univers, d'accord? Thomas d'Aquin, c'est pour ça que je vous dis Thomas d'Aquin prépare le terrain pour beaucoup de choses. Thomas d'Aquin qui a succédé à Anselme, qui était après lui, n'était pas d'accord avec lui et lui disait « Non, Dieu nous a donné une intelligence, nous sommes des êtres intelligents et donc avec la raison, on peut comprendre toutes choses. On peut explorer toutes choses et comprendre l'univers qui nous entoure. » Alors lui disait que les sens et la raison humaine peuvent et doivent être le point de départ pour pouvoir comprendre et éventuellement pour pouvoir croire. Bon, je vais essayer de vous démontrer une implication pratique de ça. Thomas d'Aquin, ça l'a conduit à dire l'être humain en étudiant la révélation générale. Quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la révélation générale? Je pense qu'on va finir ça la semaine prochaine. C'est quoi la révélation générale? C'est la nature. Mais encore, explique-moi ça un peu plus. En quoi la nature est-elle la révélation générale? Le prochain cours, c'est survol de doctrine de l'Église. Survol de doctrine essentielle. Oui. C'est parce que c'est accessible à tout le monde. Hein? On pense à Romains 1, d'accord? En observant la nature, tout ça, il y a certaines choses qu'on peut saisir sur l'existence de Dieu, sur sa présence, sur le fait qu'il est sûrement un créateur. Ça, c'est la révélation générale. La révélation spéciale, c'est la parole de Dieu, où spécifiquement Dieu écrit des mots, inspire des mots. Et donc, ces mots-là sont clairs. On peut comprendre ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous. Anselme disait, j'ai besoin d'aller vers la Bible et de croire pour pouvoir comprendre l'univers. Thomas d'Aquin, il disait, non. L'être humain a été créé intelligent, il peut étudier la nature et connaître Dieu. Ça va conduire, Thomas d'Aquin, éventuellement à dire, tout homme sur la terre peut connaître Dieu à partir de la nature, en étudiant la nature. La semaine prochaine, je vais plus le développer la semaine prochaine. Ça va amener une tension. Parce que Paul nous dit dans Romains que nul homme ne cherche Dieu. Et donc, généralement, on va dire, il faut que Dieu nous attire à lui pour qu'on puisse le connaître. Thomas d'Aquin va en venir à dire, non, tous les êtres humains peuvent par eux-mêmes trouver Dieu, éventuellement sans la grâce de Dieu même. D'accord? On va voir ça ensemble la semaine prochaine. On va un petit peu dans la théologie, là. Je sais que c'est un peu plus technique pour certains. On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, encore une fois, je veux te remercier, Seigneur, pour ceux qui nous ont précédés, qui ont essayé de se retrouver dans ta parole à travers ces époques vraiment tristes, Seigneur. Si on s'était fié à ces époques, Seigneur, ça aurait été dur de croire qu'on allait assister à la réforme et puis qu'on allait assister à vraiment une renaissance claire d'une Église attachée à tes Écritures comme les apôtres l'étaient, Seigneur. Mais tu as promis, Seigneur Jésus, que tu bâtirais ton Église et tu es présent au milieu de nous, tu règnes dans les cieux et sur la terre, Seigneur. Tu as entière autorité, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et tu bâtis ton Église, Seigneur. Et je veux reconnaître ta souveraineté malgré ces moments de l'histoire tellement tristes et pathétiques, Seigneur. Je reconnais ta souveraineté parce que ta parole l'affirme et parce que je l'observe aussi à travers l'histoire, Seigneur. Je vois cette époque où nous vivons, où l'Évangile se répand un peu partout sur la terre, Seigneur. Nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer et déclarer, Seigneur, que toutes les bêtises que des gens ont pu faire en ton nom ne sont pas de toi, Seigneur. Ce qui est de toi, c'est ce sacrifice parfait, beau, gracieux que tu as accompli à la croix pour nous. C'est cette sainteté que nous te connaissons, Seigneur, qui est sans politique, qui est sans manipulation, Seigneur. Nous voulons reconnaître que toi, tu es saint, toi, tu es pur. Et Seigneur, nous ne voulons pas être comme eux, mais humblement, nous voulons te demander de nous garder, Seigneur, près de toi, Seigneur, avec une foi simple et pure. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.